Bonjour à tous et à toutes. Je vous invite à vous tourner dans vos Bibles un passage de Romains 12. Si vous vous souvenez, on a fait quelques semaines, quelques mois même, que nous étudions la lettre de Paul aux Romains. Donc, le grand apôtre Paul livre là une œuvre essentielle pour comprendre la foi chrétienne. Et nous avons vu que nous étions des pécheurs. Pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas une surprise. Pour certains, ça peut l'être, parce qu'ils imaginent que les pécheurs, c'est ceux qui commettent des meurtres, ou des viols, ou des tricheries financières à grande échelle. Mais tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un péché. Et fort de cette conviction, nous attendons et nous découvrons avec joie que Dieu a ouvert une voie, que par la foi nous pouvons être sauvés, qu'il est venu en la personne de son Fils Jésus-Christ, Jésus a porté nos péchés à la croix, c'est lui qui a payé la punition que nous méritons. Et la chose merveilleuse, c'est qu'il nous suffit de croire par la foi à ce qu'il a fait pour être au bénéfice de sa perfection devant Dieu le Père, d'être pardonné pour toujours, d'avoir la vie éternelle, d'être ce qu'on dit, d'être justifié, déclaré juste par Dieu. Et puis on a vu que on a vu pas mal de choses, mais on a surtout vu qu'il y a des tas de choses merveilleuses. On agit maintenant sous la grâce et non plus sous la loi. La grâce, c'est obtenir la faveur, c'est la faveur non méritée que Dieu nous accorde si nous mettons notre foi en Jésus-Christ et en son sacrifice. On n'est plus sous la loi. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de respecter des commandements à la lettre pour essayer de gagner des bons points et d'être ainsi accepté par Dieu. Non, c'est une autre économie. Dieu nous donne le Saint-Esprit qui vient vivre en nous. Il nous promet l'aide dans toutes nos souffrances. Nous avons vu aussi au chapitre 8 une chose merveilleuse. Ce chapitre commence en disant qu'il n'y a pas de condamnation. Si vous êtes en Christ, si vous avez accepté ce que Jésus-Christ a fait pour tous les hommes, mais faut-il l'accepter pour être en mesure d'en retirer le bénéfice, nous sommes pardonnés. Donc il n'y a plus de condamnation si nous sommes en Christ. Et puis ça se termine par l'idée qu'il n'y a plus de séparation de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc tout ça, ça nous a instruit sur ce qu'il faut croire, sur ce qu'on appelle la doctrine, sur des faits spirituels avérés, réels, qu'il nous faut embrasser, qu'il nous faut recevoir. Et une fois qu'on a ces vérités, on va pouvoir passer à la pratique. Et on a vu que Paul faisait une petite parenthèse dans les chapitres 9 et 10 et 11 pour dire qu'en fait, les promesses de Dieu, on pouvait compter dessus, et notamment concernant le peuple juif, il va susciter un reste qui va se joindre aux païens qui sont convertis à Jésus-Christ pour faire son Église. Et à la fin des temps, il n'y aura qu'un seul peuple, le peuple sauvé par Dieu, et on est toujours sauvé par la foi en Jésus-Christ. Même les Juifs de l'Ancienne Alliance, c'était par la foi, ils croyaient à la promesse qui avait été faite à Abraham. Et cette promesse, c'était qu'un jour, toutes les nations de la terre seraient bénies par lui, par sa descendance, nommément par Jésus-Christ. Donc tout ça pour dire qu'on a vu beaucoup de choses théoriques, même si ça a des applications pratiques qu'on a déjà évoquées. Mais maintenant, dans le reste du chapitre, du livre plutôt, Paul va s'efforcer de montrer les conséquences pratiques de ce que nous avons appris. On peut être très fort en théorie et pas fort du tout en pratique dans le monde normal, disons dans le monde qui nous entoure. Si on est dans ce genre de choses, on devient professeur. On est très fort pour expliquer la plomberie, mais on est incapable de réparer une fuite d'eau. On peut expliquer les principes chimiques, physiques de la soudure, etc. Mais dans la vie chrétienne, si notre connaissance de Dieu et de ce qu'il nous a révélé ne débouche pas, mauvais jeu de mots sur les plomberies, ne donne pas sur des choses concrètes dans nos vies, à ce moment-là, ça ne sert à rien. Et ça, c'est un danger, c'est que quand on... Notamment les jeunes qui font des études théologiques, en séminaire, en école biblique, on peut devenir des spécialistes de la parole de Dieu et ne servir à rien dans le monde. Et j'avais un pasteur que j'avais remplacé pour un temps à Nice quand nous étions venus, qui expliquait que oui, il avait des copains qui étaient séminaristes ou qui avaient fait des écoles, des instituts bibliques, et ils se régalaient avec les concepts de la foi, de l'élection divine, etc. Mais lorsqu'il venait le moment de devenir pasteur et de s'occuper de la réalité du monde qui nous entoure, des gens qui ont des vrais problèmes, il disait, lorsqu'il s'agit d'aller chercher une personne âgée dans une maison de retraite pour l'emmener à l'église, là, il n'y a plus personne. Et c'est quelque chose dont il faut se garder, et moi le premier, je vous ai expliqué cet épisode où j'avais reçu un coup de fil le samedi après-midi d'une maman célibataire qui me demandait si je pouvais venir la chercher à Carrefour. Elle n'avait pas fait attention, elle avait acheté trop de provisions et elle pouvait plus prendre le bus avec ses deux enfants et tous ses sacs. Donc elle m'avait appelé en disant, est-ce que par hasard tu pourrais venir me donner un coup de main? Et j'étais jeune dans le ministère et j'avais dit, en fait, tu vois, là, je suis en train de préparer mon sermon pour demain, donc ça serait mieux si tu pouvais appeler quelqu'un d'autre. Et ma grande honte, c'est ce que j'avais fait. Je n'avais pas compté sur Dieu pour me donner le temps de rattraper le temps que j'aurais passé à aller lui donner un coup de main. Mais c'est ça la vie chrétienne, c'est pas seulement les théories, c'est la mise en pratique, c'est l'amour qui vient aimer l'autre. Jésus est venu, il nous a montré comment aimer les autres, comment annoncer la parole, comment... Mais maintenant qu'il est remonté et qu'il est avec le Père, je suis sa bouche, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds. Si ce n'est pas nous qui faisons le travail, personne ne va le faire. On va lire donc le début de cette nouvelle partie de la lettre qui s'occupe de la mise en pratique de ce que Paul nous a révélé. C'est très important d'avoir ce lien entre la doctrine et la vie pratique. Quelqu'un disait, un commentateur, une femme, Claire Lise de Benoît, écrivait « Le juste vivra par la foi », tel est dans cette lettre le thème de Paul, le leitmotiv, ce qui répète. Il a révélé l'injustice de tous les hommes, la nécessité de la foi pour obtenir la justice qui vient de Dieu en Christ. Et après avoir rappelé qu'Israël n'avait pas choisi ce chemin et avait été rejeté partiellement et temporairement, l'apôtre va maintenant insister sur le mot « vivre ». Le juste, on a vu la justification, « vivra par la foi ». Et elle ajoute montrer comment la justice de Dieu doit et peut se manifester, encore une fois, dans la vie pratique. On va lire les deux premiers versets. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, » c'est page 1280 dans la Bible, second 21, « par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On va peut-être se contenter de passer du temps sur ces deux versets ce matin, parce que il y a des choses très importantes qui sont dites dans ce début de passage du chapitre 12. Essayer de mieux cerner le sens de ces paroles, ce que Paul écrit, on peut regarder d'autres versions. Une version, vous savez, la Bible a été écrite en trois langues, essentiellement l'hébreu et le grec, et aussi il y a des passages qui ont été écrits en araméen, qui était l'hébreu parlé en Terre Sainte à l'époque de Jésus. Et comme la plupart d'entre nous ne connaissons pas le grec, on traduit la Bible, le Nouveau Testament, en français, en anglais, suivant les langues, suivant votre langage commun. Et quand on traduit, on ne dit pas exactement la même chose quand on traduit un même texte. Pourquoi ? Parce que le vocabulaire varie en fonction des époques. Si vous lisez la Bible Second, au lieu de dire « il ne faut pas », vous trouverez l'expression « il ne faut point », des petites choses comme ça. Mais il y a aussi deux façons de traduire la Bible. Soit on privilégie la traduction mot à mot, et c'est important lorsqu'on veut faire des études où l'importance de chaque mot est importante. Soit on remplace une phrase par une expression équivalente pour que ce soit plus facilement lisible dans la langue courante que nous utilisons, plus facilement compréhensible. Et on a soit la traduction mot à mot, soit la traduction, ce qu'on appelle la traduction dynamique, qui est une traduction qui restitue le sens sans chercher à traduire chaque mot. Et là, j'ai plusieurs passages qui sont plusieurs versions de la Bible pour ce même passage. Je vais en lire une ou deux. Ce qu'on appelle la version Darby. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bonne et agréable et parfaite. Une version, ce qu'on appelle la version du français fondamental, pardon. Frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voici le vrai culte que vous devez lui rendre. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu changer complètement votre intelligence. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Une autre traduction avec un vocabulaire simple s'appelle la parole vivante. Nous dit « Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. » Vous voyez, on a toujours le même texte original, mais en adoptant le vocabulaire, en insistant sur certains points, on peut se faire une meilleure idée de ce que Paul, inspiré par l'Esprit-Saint, voulait nous dire au début. Donc, on va regarder quelques-uns des mots qui sont utilisés. Je vous encourage. Donc, frères et sœurs, il s'adresse à des chrétiens. Donc, dans cette église qui se trouvait à Rome, une église où il y avait des juifs et aussi des païens, il les encourage. D'autres versions nous parlent « Je vous demande, je vous invite, je vous exhorte ». Et c'est donc l'idée, c'est de s'efforcer par des discours, par la persuasif, de porter quelqu'un à faire quelque chose. C'est réconforter, encourager, engager, inviter à, appeler dans le but de produire un effet particulier, que ce soit pour du réconfort, pour l'action. Et plus communément, ce qu'on appelle la pub, c'est une exhortation. C'est un encouragement qui nous dit que si on achète le produit là, qui n'est pas cher du tout, qui est nouveau, qui est amélioré, on va avoir tel bénéfice. Et ce qu'ils essayent de vous vendre, ce qu'ils essayent de me vendre, c'est que si j'achète, je dépense de l'argent et que j'acquiers ces produits, ces services, alors ce sera le bonheur. Et bien souvent, même si on sait que c'est un peu stupide, on adopte ce genre de pensée, on se laisse conformer par cette publicité, par cette façon de vivre qui nous est montrée en exemple. Le mot « les compassions de Dieu », c'est donc toutes les bontés, toutes les actions, les bénéfices que Dieu nous a donnés. Et ça, on a vu ça dans les chapitres qui ont précédé, dans les... Je n'ai pas compté, mais je crois qu'il y a près de... Déjà, on a déjà vu 350 versets qui nous ont expliqué combien Dieu nous aime, combien Dieu a pourvu une solution à notre péché et combien il veut nous bénir. Et parce que Dieu nous aime, parce qu'en raison de ses compassions, c'est la miséricorde, c'est que Dieu nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Ça, c'est la grâce. Il ne nous punit pas pour les choses mauvaises que l'on fait. Et donc, en raison de toute cette bonté, voilà ce qu'il nous encourage à faire, c'est à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrir, ça veut dire mettre, présenter. C'était le terme technique qu'on utilisait pour présenter un sacrifice. on met à la disposition de, on propose, on offre notre corps. On pourrait penser que le corps, c'est... On y reviendra, mais on va continuer sur quelques autres mots avant. Se conformer. Ne vous conformez pas au monde actuel. C'est un mode grammatical qui veut dire que c'est... On se laisse faire par quelqu'un d'autre. Il y a une action qui est en train de prendre place, qui a pour objet notre propre personne. Une bonne traduction de ce passage, c'est un auteur anglais, J.B. Phillips, qui dit « Ne laissez pas le monde vous presser dans son moule. » L'action vient de l'extérieur et nous, on se retrouve rendus semblables. C'est intéressant parce que quand on est jeune, par réaction vis-à-vis de nos aînés, de nos parents, on rejette quelque chose, on pense être anticonformiste. Ce qui est drôle, c'est que entre anticonformistes, on devient tous pareils. Quand j'étais jeune, les jeunes qui se rebellaient mettaient des blousons noirs. Et les vieilles personnes avaient peur des blousons noirs. Mais tous les jeunes étaient en blousons noirs. Et cette pression de l'extérieur, qui vient souvent de nos pères, des gens qui ont les mêmes, le même âge, les mêmes occupations, on finit tous par se ressembler énormément. Il y a le mot « transformer ». Et donc, ne vous conformez pas, ce serait mieux de dire « ne soyez pas conformés par ». Mais soyez transformés. Là aussi, ça, le sujet de l'action, c'est quelqu'un d'autre que nous. Nous, on reçoit une pression ou on reçoit quelque chose qui nous transforme. Soyez transformés, c'est le mot qui nous a donné le mot de métamorphose. Vous savez, lorsqu'une chenille se transforme en papillon, on dit qu'elle est métamorphosée en un papillon. C'est une transformation radicale, c'est méta. Méta, c'est un mot qui veut dire que c'est très fort. C'est changer de forme, de nature, de structure au point d'être méconnaissable. Donc, Paul nous invite à être méconnaissables. Soyez transformés dans votre nature intérieure. Et ça, c'est quelque chose donc, qu'on voit dans la nature, la métamorphose. Les chenilles deviennent des papillons. Le renouvellement... Soyez transformés par le renouvellement. En grec, il y a deux mots qu'on traduit par nouveau. Il y a un mot qui est nouveau en relation du temps qui passe. C'est tout nouveau, c'est sorti la semaine dernière. Ou alors il y a nouveau qui veut dire la caractère et la nature ont changé. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et là, ça fait référence à quelque chose de profond, un changement de nature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce renouvellement, c'est cette chose profonde, ce chose qui fait qu'on... On a changé un peu de logiciel. On n'est plus dans le vieux logiciel, on a une nouvelle façon de penser en profondeur. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est l'esprit. c'est l'intellect, c'est la faculté de penser, c'est ce qu'on appelle la raison dans sa capacité à réfléchir, à apprécier les choses d'un point de vue moral, c'est l'intelligence. Et donc, je relis, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Un culte, c'est-à-dire un service, une façon de le servir. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On va revenir à ce point essentiel de la volonté de Dieu. Mais d'abord, il nous dit de... Il y a une progression. Il nous dit de faire certaines choses. Et puis le but, ça va être de pouvoir connaître, de pouvoir discerner la volonté de Dieu. Une des questions que je me pose, une des questions que vous posez, une des questions que les chrétiens se posent, c'est quelle est la volonté de Dieu dans tel ou tel domaine? Si on pouvait écrire un livre qui soit simple, qui ait quelques étapes et qui donne réponse à tous les gens qui se posent cette question, on serait plus riche que Bill Gates. C'est une question qui est sur toutes nos... qui devrait être dans toutes nos pensées. Quelle est la volonté de Dieu en la matière? Quel que soit le domaine. Discerner la volonté, une façon, certaines versions parlent de prouver la volonté de Dieu. J'aime bien une autre définition, discerner, mais le mot veut dire établir la certitude d'une chose, déterminer, connaître sans l'ombre d'un doute, d'une manière absolue, découvrir la vérité en la matière. Donc il y a cette idée de discerner quelle est la volonté de Dieu. Et depuis toujours, des réponses ont été faites à ceci. Une des réponses les plus vraies, les plus succinctes, je ne crois pas qu'il soit devenu riche comme Bill Gates, mais ça vient d'un Kabyle, un Kabyle célèbre, un Algérien célèbre, qui s'appelait Saint Augustin. Saint Augustin, vous avez des églises qui portent son nom, ça a été un des grands, ce qu'on appelait les pères de l'Église, les premiers qui ont essayé de réfléchir sur la Bible, de l'exposer, de la présenter. Et il avait une façon très simple de voir la chose. Il disait « Aime Dieu et fais ce que veut. » La volonté de Dieu, ce n'est pas difficile. Aime-le d'abord. Et après, tout ce que tu vas faire, ça sera la volonté de Dieu. C'est fort, c'est radical, et en même temps c'est très vrai, parce que si vous aimez vraiment Dieu et que vous cherchez à lui plaire, il va pouvoir vous guider, et ce qui vous semblera bon, ça va être sa volonté. Le psalmiste David, donc, l'a dit dans d'autres... En d'autres façons, il a dit « Fais de l'Éternel tes délices il te conduira dans tes voies. Si on a une relation intime avec Dieu, si on le connaît, à ce moment-là, il va te donner les désirs de ton cœur. Ça ne veut pas dire que vous avez dans le cœur d'avoir une Porsche rouge la semaine prochaine et que si vous dites « Oui, je fais de toi, Seigneur, mon délice », que lundi matin, vous pouvez aller voir dans le garage et voir s'il a remplacé la vieille de chevaux par une Porsche rouge. Non. Ça veut dire que c'est lui qui va susciter les désirs dans votre cœur. Il va vous donner des choses à désirer parce que vous l'aimez, que vous faites de lui vos délices. Vous avez une relation si étroite, si pleine d'amour et de satisfaction d'être en relation intime avec lui, qu'il peut vous diriger, vous donner des envies qui sont en accord avec sa volonté. Aime Dieu et fais ce que veut. Il nous dit là, en fait, il y a une façon de faire qui est d'abord de s'approcher de Dieu. Et en gros, il y a deux étapes pour discerner la volonté de Dieu. Il faut présenter son corps, offrir vos corps comme un sacrifice, présenter, venir à Dieu. Et puis, décider chaque jour que c'est la parole de Dieu et non la publicité, non le monde, les valeurs qui vous entourent dans le monde non chrétien qui vont former vos pensées. Au début de chaque jour, on peut dire « Me voici Seigneur, je te donne ma vie ». Là, il parle de donner votre corps, et souvent on pense que le corps, puisque notre corps, c'est avec le corps que nous péchons, donc le corps n'est pas pur, mais le corps est une belle et bonne chose. Nos corps sont des miracles. Notre anatomie, la façon dont Dieu a agencé nos corps et les corps des animaux, c'est spectaculaire, c'est fantastique. Et c'est seulement quand on se blesse ou qu'on a des problèmes liés à l'âge qui interviennent qu'on perd certaines des facultés de notre corps et qu'on s'aperçoit que c'était formidable. On n'y pensait pas, on gambadait dans les prairies, on sautait, on plongeait, on faisait n'importe quoi, en toute liberté. Et puis on voit que sur la radio, sur l'IRM, qu'il y a un problème, et on voit qu'il y a quelque chose de cassé là, et on se dit, waouh, c'était vraiment... C'est bien fait normalement. Quand c'est pas cassé. Et ce qui est encore plus merveilleux, c'est que Dieu a donné à nos corps la capacité de se guérir avec un système immunitaire, avec un renouvellement de la formation d'os ou de cellules. Notre corps est prodigieux et c'est la vieille nature, c'est la partie de notre corps qui n'a pas été régénérée, c'est la partie qui... Mais notre corps, en lui, il n'y a rien de mal. Et là, il veut que nous offrions nos corps, nos intelligences. Bref, c'est tout notre être que nous devons mettre à la disposition, présenter à Dieu tous les matins. Vous pouvez lui dire, je te donne ma vie, j'ai mon agenda, mais tu peux m'interrompre quand tu veux. Programme mes pensées avec ta parole. Règne sur mes pensées avec ton esprit. Et plus on fait cela, plus on va désirer sa volonté, ses voies. Plus on lit la parole, plus on apprend à reconnaître la petite voix paisible. On parle à la Bible. Sa parole, la Bible, c'est sa voix. On vient de perdre un grand homme de Dieu, Billy Graham. Il avait une voix qui était très caractéristique et pour beaucoup, il était la voix de Dieu. Mais c'était la voix de Dieu parce que, pas parce qu'il avait un timbre de voix, mais c'est parce que sa parole, ses paroles reflétaient la parole de Dieu. Ce qu'il disait était souvent jugé trop simpliste, mais c'était directement la parole de Dieu. Et des millions de personnes doivent leur salut à cet homme et à sa vie consacrée. Et c'est vrai que quand on cherche la volonté de Dieu, souvent on voudrait un grand signe dans le ciel. Mais il nous parle par sa petite voix. L'auteur de la lettre aux Hébreux disait « Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » On n'a pas besoin de grands signes, mais encore pour revenir à notre texte, venir à lui, donner notre être entier, nous mettre à sa disposition. Paul dira dans 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Et dans Romains 6, 13, Paul disait « Ne livrez pas vos membres, vos facultés, c'est pas seulement vos bras et vos mains, mais toute votre intelligence, vos ressources personnelles. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, pour faire le mal, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres, votre corps, vos ressources innées comme armes pour la justice. » Il nous dit de présenter nos corps comme un sacrifice vivant. À l'époque, lorsque Paul écrit, il y a encore des sacrifices qui sont offerts à Jérusalem dans le temple. Les gens savaient ce que c'était un sacrifice. Nous, on parle de faire un sacrifice lorsqu'on donne de l'argent à une bonne cause ou lorsqu'on se prive de certaines joies ou de certaines choses matérielles pour faire du bien autour de nous. Ah, c'est un grand sacrifice. Les parents font des grands sacrifices pour leurs enfants, pour qu'ils aient une bonne éducation. Ils travaillent deux boulots pour pouvoir avoir assez d'argent pour leurs études, etc. Et donc, il y avait... Souvent, on offrait des animaux qui étaient déjà sacrifiés, c'est-à-dire qui étaient déjà morts, plutôt tués par les prêtres, et on les mettait sur l'autel. Mais il y avait aussi des sacrifices qui étaient vivants sur l'autel. Et c'était la preuve qu'ils étaient de qualité. On ne met pas une vache qui a été écrasée par une voiture, on ne vient pas l'offrir en sacrifice à Dieu. C'était mal reçu par Dieu si c'est quelque chose qui ne nous a pas coûté. Dans l'histoire, il n'y a eu que deux sacrifices d'hommes vivants. C'était dans la Genèse 22, le sacrifice du fils d'Abraham qui était prêt à offrir son fils Isaac, qui était prêt à le tuer sur l'autel. Mais Dieu avait retenu sa main en disant qu'il allait lui-même se pourvoir un animal, un sacrifice. Et ce sacrifice, le seul qui soit allé jusqu'au bout, le sacrifice vivant, ça a été Jésus-Christ, qui a été une victime pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous donnons donc notre corps et c'est pas seulement lorsqu'on aura atteint un certain niveau de spiritualité, qu'on aura vaincu le péché dans tous les domaines de notre vie, qu'on peut lui dire « voilà, maintenant je suis propre, j'arrive ». Non, on ne sera jamais assez propre. Les religions nous disent « purifie-toi et viens à Dieu ». Dieu nous dit « viens tel que tu es ». C'était un grand thème de cet évangéliste Billy Graham. Il disait « come just as you are ». Venez tel que vous êtes. Il a écrit un livre qui s'appelle comme ça « tel que vous êtes ». Tel que je suis. Nous donnons à Dieu aussi notre intelligence. Le péché originel a obscurci, a affecté notre intelligence, notre capacité de comprendre les choses telles qu'elles sont. Paul dira dans Éphésiens 4, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence, selon le vide de leur intelligence. Il continue en disant, ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à l'amour, à l'attrait de l'argent. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, si vous avez été instruit en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est-à-dire, vous dépouillez à cause de votre conduite passée de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et il dit d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ça, c'est Éphésiens 4, 17 à 24. Nous marchions autrefois dans les péchés. Maintenant, nous sommes renouvelés. Et c'est intéressant parce qu'on a parlé du mot de métamorphose. C'est le mot qui est aussi utilisé dans l'épisode de ce qu'on appelle la transfiguration. Vous vous souvenez que Jésus était monté avec trois de ses disciples sur la montagne et que là, il priait son Père, il avait été transfiguré. Sa personne resplendissait comme le soleil. C'est Matthieu 17, 2 dit « Il fut transfiguré devant eux, il fut métamorphosé », c'est le mot grec. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et je faisais allusion aux chenilles qui se transforment en papillons. Il y a une expérience de biologie intéressante à faire. Vous connaissez tous les têtards, les tadpoles, les petits. Lorsqu'une grenouille se reproduit, elle pond des œufs qui se transforment en têtards, qui ont des branchies qui sont faits pour vivre dans l'eau uniquement. Si vous sortez un têtard et que vous le mettez dehors, il va se dessécher et mourir. Et les petits garçons et les petites filles aiment bien faire ce genre d'expérience biologique. Pour devenir une grenouille normalement constitué, il faut qu'il y ait de l'iode dans le système, dans l'alimentation du têtard. Alors l'iode se trouve dans beaucoup de plantes, dans le sel marin, etc. Mais là, on ne leur met pas de sel marin, mais ils trouvent de l'iode dans la végétation qui les entoure. Mais si on prend un têtard et qu'on le nourrit en s'assurant qu'il n'y ait aucune iode dans son alimentation, Le têtard va continuer à grandir comme un têtard. Et vous aurez un têtard géant. Si, à l'inverse, vous prenez un têtard et que vous lui donnez beaucoup d'iode, trop d'iode, il va se transformer en quelques jours en une petite grenouille, une toute petite grenouille qui ne va pas grandir. Dans les deux cas, on voit que la nécessité d'un régime équilibré d'iode dans leur alimentation pour que le processus biologique de transformation d'un têtard en une grenouille se fasse biologiquement correctement. Alors, qu'est-ce que l'iode pour nous ? Pour le chrétien, l'iode, c'est la parole de Dieu. C'est essentiel dans notre croissance spirituelle. Vous pouvez avoir des... On en parlait, on faisait allusion à ces gens qui n'ont pas les choses mises en pratique, qui connaissent beaucoup de théories. Il y a des chrétiens qui ne s'alimentent pas en parole de Dieu. Et deviennent des espèces de têtards géants. Ils n'ont jamais vraiment poursuivi l'étude de la Bible. Ils n'ont pas de verset en tête pour faire face à différentes situations. Et puis il y a aussi les grenouilles naines. Et c'est les étudiants qui sortent des séminaires mais qui ne veulent pas mettre en pratique. Qui ne veulent pas mettre ce qu'ils ont appris en pratique. Et il faut les deux. Mais l'essentiel, c'est d'ingérer la parole de Dieu. Et si vous commencez à goûter la parole de Dieu, vous allez avoir faim de cette parole. Vous allez vous sentir mal lorsque vous êtes loin, éloigné de la parole de Dieu. Quand j'étais jeune chrétien, je me souviens quand je travaillais aux États-Unis dans un gratte-ciel. Et j'avais toujours peur que l'ascenseur tombe en panne et que j'ai des heures ou des jours à passer bloqué dans l'ascenseur. Et j'avais toujours dans ma poche un petit Nouveau Testament. Je me disais au moins, si je suis coincé, j'aurai quelque chose de bon à lire. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, on a tous nos portables, maintenant on peut avoir plusieurs versions, mais on devient dépendant de la parole de Dieu, c'est bien. Une autre passage où le mot de métamorphose est utilisé, transformé, mais le mot grec métamorphose, c'est dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Et c'est vrai qu'une façon d'être transformé, c'est d'être devant Christ, devant Dieu. Un autre pasteur disait « La transformation et le renouvellement de notre intelligence ont lieu lorsque nous contemplons la face de Dieu, que nous passons du temps dans sa gloire. » Le mot de culte, c'est aussi des fois traduit par le mot en anglais de worship, qui peut être le mot de louange, mais là ça montre bien que c'est pas seulement la louange. La louange, des fois on réduit ça à la partie de chanter des chants. Et c'est un merveilleux moment et c'est une façon de se transformer l'esprit, d'écouter des chants chrétiens. Mais c'est aussi la méditation, c'est aussi de rester silencieux devant la nature, devant ou parler à Dieu dans la prière, les yeux fermés. Il y a une autre expression en français qui se rattache à cette transformation de nature, c'est ce mot de métamorphose, c'est ce qu'on appelle les roches métamorphiques. Je ne sais pas s'il y a des géologues, il y en a qui se rappellent des cours de sciences naturelles. Les roches métamorphiques, en fait, ce sont des roches qui ont subi des pressions physiques, qui ont, soit avec la chaleur et la pression, transforme la nature, les cristaux, les atomes sont réarrangés. Ainsi, si vous prenez de la craie, du calcaire, on a plein de calcaire autour de nous, on en retrouve dans les bouilloires chaque semaine, il y a une couche de calcaire qui s'est incrustée. En fait, le calcaire, ça vaut pas grand-chose. Acheter une boîte de craie, à l'époque, maintenant on fait plus ça, mais on faisait de la poussière en écrivant à la craie sur des tableaux noirs. La même matière peut devenir du marbre, le marbre de Carrère. Mais cette matière, elle a été soumise à la pression géologique. Des millions de tonnes de pierres ont pesé sur la craie, sur le calcaire, et ça s'est transformé une autre structure, et ça devient du marbre qui vaut cher par rapport à la simple craie. Et puis l'exemple le plus flagrant, c'est le charbon. Le charbon, ça vaut pas grand-chose non plus. Ça pollue. Mais le charbon, si dans des temps géologiques il est soumis à de la chaleur et de la pression, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne du diamant. Et c'est sans doute la chose la plus précieuse qu'on puisse trouver. Votre femme vous dira : oui, c'est vraiment précieux, ça montre combien tu m'aimes. C'est le diamant. Et de la même façon, le Saint-Esprit peut utiliser les épreuves pour nous transformer. Les difficultés dans nos vies, ça va raffiner notre caractère, ça va nous transformer. La question, c'est: est-ce que vous êtes conformiste ou est-ce que vous êtes un transformateur ? Alors, je ne parle pas d'un transformateur qui fait du 110 en 220, mais quelqu'un qui transforme. Si on est contrôlé par le monde, on est conformiste. On regarde la mode, la coupe de cheveux, maintenant, c'est les cheveux longs. Pour certains, c'est difficile. Mais quand j'étais jeune, la mode, c'était les Beatles avec des longs cheveux. Et j'avais déjà des problèmes de calvitie naissante et ça ne marchait pas très bien pour moi. Nancy se rappelle encore quand j'avais des cheveux longs, peut-être. J'ai une ou deux photos, je pourrais vous montrer. Mais on est contrôlé par le monde, on est conformiste. Ou alors, on est contrôlé par Dieu et on transforme. Et c'est intéressant que c'est un peu comme un récipient qui est dans l'eau, il est soumis à la pression de l'eau, de ce qui l'entoure. Et s'il n'y a rien à l'intérieur, il se fait écraser. Par contre, s'il y a quelque chose de dur à l'intérieur, c'est lui qui peut repousser et agir sur l'environnement extérieur. La volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, aimer Dieu et faire ce que veut. Mais là, il nous dit, oui, si on vient à Dieu, si on se présente en lui disant, voilà, je suis à ta disposition, Seigneur, et qu'on a l'intelligence renouvelée par sa parole, à ce moment-là, il va nous permettre de voir quelle est la volonté qu'il a pour nos vies. Il y a des conditions, bien sûr. Quelqu'un a dit, dans la Bible, il y a plusieurs passages qui disent très clairement, voici la volonté de Dieu dans tel domaine. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il est dit, la volonté de Dieu, c'est que vous absteniez de toute immoralité sexuelle. Voilà, ça c'est clair et net, c'est la volonté de Dieu. Un peu plus loin dans 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit de se réjouir toujours, de prier sans cesse, de remercier en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu. Il y a au moins deux grands groupes dans la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu qu'il décrète. Le retour de Jésus-Christ sur la terre, toutes ces choses-là, les choses qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et puis, il y a la volonté de Dieu qui est ce qu'il a de mieux à nous proposer, mais à laquelle nous pouvons désobéir. Et souvent, nous voulons connaître la volonté de Dieu pour un choix d'époux, d'épouse, pour un choix de travail, pour un choix d'emplacement géographique où nous devons aller vivre ou rester où on est. Et en fait, si on n'est pas capable de respecter les commandements clairement exprimés de Dieu, pourquoi penserait-on qu'il va se donner la peine de nous donner d'autres instructions alors qu'on n'a déjà pas écouté les instructions claires et nettes qu'il nous a données? Donc pour connaître la volonté de Dieu, il faut être prêt à la faire avant même qu'on sache ce que c'est. Ça pose problème, ça. On est prêt à faire sa volonté, mais on voudrait d'abord savoir qui nous dise. Mais un des secrets, c'est d'être prêt à faire sa volonté, avant même de savoir ce qu'elle est. Parce qu'on peut lui faire confiance, c'est un Dieu bon qui nous aime et qui a des bonnes choses prévues pour nous. Jean 7, 17, c'est important. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Pour savoir ce qu'était ce Jésus, il fallait être prêt à faire la volonté de Dieu. Pour savoir quelle était la volonté de Dieu en la matière, en Jésus-Christ, il fallait être prêt. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, alors il saura. Mais si on est prêt à je veux bien savoir et après je déciderai, il ne peut pas honorer ça. Une autre chose, c'est que tout ce qui va être conforme à sa volonté va être conforme à sa parole. Certains gens vous disent « Le Seigneur m'a dit de prendre une deuxième femme ». Non, c'est pas dans sa parole, ça peut... Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais n'allez surtout pas dire que c'est conforme que c'est sa volonté, parce que c'est contraire à sa parole. Et un troisième point, et ça rejoint ce qu'on a vu, donc c'est pour connaître la volonté de Dieu, il faut être proche de lui. La parole. On entend des paroles. Hein. Le psaume 32, 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Pour être en communication par le regard, il faut être proche. Et donc c'est cette idée de se présenter, d'être proche de lui et de pouvoir discerner sa volonté. Une autre façon de voir les choses, c'est de se dire que c'est à partir de Colossiens 3, 15, la volonté de Dieu, on la voit lorsque les circonstances dans nos vies, la parole de Dieu et la paix dans nos cœurs sont alignées. J'ai quelqu'un qui me dit qu'ils ont besoin d'un missionnaire en Éthiopie. Je lis la parole de Dieu, je vois qu'il dit « Allez au bout du monde, prêcher l'évangile ». Puis plus j'y pense et plus je sens que c'est bien. Ces trois choses sont alignées et je peux partir en disant « C'est la volonté de Dieu ». Alors c'est toujours un peu prétentieux de dire « C'est la volonté. Dieu m'a dit de faire ceci ou cela. » Mais ce qui compte, c'est pas de le dire aux autres, mais c'est d'avoir la conviction intérieure. Et ça commence par offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice mort, ça lui plaît pas, mais un sacrifice vivant, saint, mis à part pour son service, c'est un culte raisonnable. C'est une façon de vivre logique. En vertu de tout ce qu'il a déjà fait pour nous, c'est la chose à faire. Et puis, si on se laisse renouveler par la parole, on va être à même de discerner, de savoir ce qui est bon, agréable et parfait pour nous, pour nos vies. Alors, ça répond peut-être pas aussi facilement qu'on le souhaite des fois, on veut savoir si on doit accepter tel job ou pas, mais si on applique ces principes, si on est en proximité avec Dieu, si on a l'intelligence de sa parole, on va avoir la paix, on va pouvoir, au vu des circonstances, prendre des décisions. Et une chose que je dis toujours à Dieu lorsque je prends un choix, c'est je dis « Seigneur, c'est ce qui me semble être le choix que tu veux pour moi, ça me semble être ta volonté, mais je te donne carte blanche pour me corriger à tout instant, à chaque instant, de me dire non, c'était pas ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vous donne la paix, de savoir que Dieu ne va pas vous... Sa volonté n'est pas pour votre mal, elle est pour votre bien. Vous pouvez lui faire confiance. Amen.